est très heureux de vous recevoir ce soir à Bruxelles pour Histoire en filigrane. Michel Fitoussi, vous êtes connu pour plein de raisons, mais notamment parce que vous êtes éditorialiste au magazine Elle. Vous êtes auteur de nombreux documents et aussi de romans. Et on vous reçoit ce soir pour un livre qui fait plaisir aux femmes, mais pas seulement, aux historiens, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la beauté, et qui est une biographie trépidante qui est consacrée à un personnage, à une figure importante pour l'histoire de la beauté, mais aussi pour l'histoire des femmes. Il s'agit d'Elena Rubinstein. On imagine aisément pourquoi est-ce que ce petit bout de femme d'1m47 vous a fasciné. Elle est née dans un faubourg pauvre et juif de Cracovie en 1872, et elle a conquis le monde avec son empire de la cosmétique, un petit peu comme ses contemporaines, Gabrielle Chanel ou Elisabeth Arden, plus tard, qui sera sa grande concurrente. Vous le dites d'entrée de jeu, elle m'est apparue comme une Scarlett O'Hara polonaise. Sa vie est un roman. C'est ça qui vous a plu, c'est que sa vie est un roman, tout d'abord.
Oui, bah alors je l'ai rencontrée par hasard en lisant une petite monographie qui était publiée chez aux éditions S. Souline, quelques pages. Et ce qui m'a fait rêver tout de suite, c'est le fait que ça soit qu'elle soit née effectivement à Cracovie, à Casimirs exactement, dans cette famille juive orthodoxe, pas très riche, de parents très traditionnels, l'aînée d'huit filles. Alors voilà, les prénoms des filles, Stella, Monca, Cheska, Regina ou Paula, ça m'a fait vraiment rêver. Ça ressemble à une chanson de Marie Laforêt. Et puis, il y avait aussi le fait qu'elle soit partie comme ça à 24 ans, toute seule, parce qu'elle veut pas se marier. Elle voulait pas se marier, en fait.
Elle était immariable
parce que, non pas parce qu'elle était pas laide, mais c'est qu'elle voulait pas se marier et que les prétendants que lui présentaient ses parents.
Trop de caractère.
Elle en voulait pas, elle avait trop de caractère, elle était très hyperactive, elle est restée toute sa vie. Et elle refusait absolument de se marier. Elle était aussi un peu chef, parce qu'évidemment c'était l'aînée des huit filles, donc elle s'occupait de ses sœurs, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de commander des choses, des achats, et elle allait aussi s'occuper du bazar de son père où il vendait des œufs, du kérosène, et comme c'était un rêveur qui préférait ses livres à ses livres de contes, et ben elle aussi, elle à plusieurs reprises, elle a sauvé d'un mauvais pas quand il faisait des mauvaises affaires.
Et donc, ne voulant pas ou n'arrivant pas à se marier, parce qu'elle elle étouffe un petit peu dans ce milieu, elle a besoin de plus, elle a une personnalité qui est hors norme, elle va partir pour l'Australie. Vous le dites, elle a 24 ans, elle a vaguement un oncle là-bas ou quelques personnes de sa famille, mais enfin, elle part quand même, c'est une aventurière. Et elle a, à cette époque, plusieurs handicaps tout de même, parce qu'elle est, femme, elle est juive, elle est pauvre et elle est polonaise. Comment est-ce qu'elle va faire ?
Alors, elle part pour l'Australie, effectivement. On l'expédie là-bas, la famille vend des bijoux, les pauvres, les riches, parce qu'il y avait plusieurs branches dans la famille. Il l'avait d'abord envoyé à Vienne chez des oncles fourreurs, puis et puis finalement, comme ils n'arrivent pas à savoir quoi faire d'elle, donc il l'envoie en Australie chez trois oncles qui avaient fui les pogroms. Et ce qui se passe, c'est que à l'époque, la mère d'Elena Rubinstein, Gitel Rubinstein, avait des pots de crème que lui fournissaient des chimistes hongrois, de ses amis. Alors, l'histoire, elle est vraie, fausse, on ne sait pas très bien. Parce que Elena Rubinstein, il faut savoir que c'était une menteuse de génie, qu'elle a inventé le marketing, en tout cas son propre marketing, et qu'elle a toujours brodé comme elle voulait. Donc l'histoire qu'elle raconte, mais moi je veux la prendre pour moi parce qu'elle est très jolie, c'est que sa mère régulièrement enduisait le visage de ses filles de crème de beauté pour protéger leur peau des intempéries et du froid de la Pologne, et que quand elle part, cette fameuse crème faite par les frères chimistes hongrois, elle la glisse dans sa valise, elle glisse 12 petits pots de crème. Et ces 12 petites pots de crème dans cette malle vont être le début de sa fortune. Alors, Elena Rubinstein, elle prend le bateau à Gênes et elle traverse la moitié du monde pour arriver en Australie. Et moi, j'imagine cette jeune femme, elle mesure 1m47, elle a des talons très hauts, elle a une petite ombrelle pour se protéger du soleil. C'est pas une aventurière, mais elle voyage sans chaperon. Et je me dis quand même, quelle énergie et quel courage, parce que des immigrantes, il y en avait beaucoup. C'était vraiment l'époque des grands flux migratoires. On arrivait dans le Nouveau Monde, dans les Nouveaux Mondes, en Australie, aux États-Unis, quand on venait d'Europe. Mais une petite femme comme elle, c'était vraiment du courage et du rouspa, de la rouspa, du toupé, comme on dit en yiddish. Et quand elle arrive en Australie, ben, elle se trouve avec ses oncles et elle déchante vite parce qu'ils l'emmènent à Coleraine où ils habitent. Et Coleraine, c'est pas du tout la Melbourne flamboyante où elle pensait arriver, qui est une ville moderne qui a rien à envier à New York. C'est une petite ville, petit bourg étriqué de l'état du Victoria, avec des orpailleurs, des éleveurs de moutons, des moutons partout. Et tout de suite, un de ses oncles la colle au boulot et en la faisant vendre dans son magasin, il a un bazar, il est aussi oculiste. Et l'autre qui élève des moutons, un petit peu libidineux, et donc il essaie de la coincer dans les coins. Donc pour vous dire que c'est pas très gai la vie de Lena Obinchian là-bas, bien que dans son autobiographie, elle raconte que ses oncles avaient une grande propriété et que comme elle était une jeune fille oisive et qu'elle s'ennuyait beaucoup, donc elle a commencé à essayer d'intéresser les femmes de la haute société à ses produits de beauté. C'est vrai, mais c'était beaucoup plus tard. D'abord, il y a eu le passage des quelques années à Coleraine où ça a vraiment été la galère.
Oui, ça a été difficile et elle a souvent menti, vous le dites dans le roman par la suite, enfin dans le... C'est pas un roman, c'est un vrai document. Mais vous le dites, elle a souvent menti sur ses débuts difficiles, et ça, c'est un point commun qu'elle a avec Gabrielle Chanel, d'avoir souvent construit sa propre légende et enjolivé ses origines. Et pour le cas de Gabrielle Chanel, enfin, en tout cas, toutes les deux, elles ont souvent menti. Il y a un très beau moment dans le livre où elles se rencontrent, d'ailleurs, vous le racontez, et bon, elles ont eu évidemment des différences, mais il y a des points communs sur la construction de la légende.
Oui, tout à fait, parce que je pense que c'était important de montrer qu'elles n'étaient pas du tout nées dans un milieu pauvre, alors qu'aujourd'hui, je pense que ça serait plutôt à tout à leur honneur de le savoir, enfin, on le sait maintenant. Donc, elles s'inventaient un passé d'aristocrate, de bourgeoisie, mais Elisabeth Arden, qui a été la grande rivale d'Elena Rubinstein et qui venait aussi d'un milieu très modeste, a fait la même chose, et Stéloder, un peu plus tard, a fait la même chose aussi. Donc, finalement, c'était une façon de se la raconter un peu et de dire, j'ai connu les belles demeures polonaises, ou j'ai connu où mon oncle avait été propriétaire terrien, alors qu'en réalité, elles se sont construites toutes seules.
Oui. Et puis une manière de s'approprier son image et de commencer avant l'heure à jouer avec dans la publicité, dans tout ce domaine-là, c'est ce qui va aussi faire le succès de ces femmes-là.
Elle a construit sa marque, effectivement, elle l'a construite dès le début, en racontant des mensonges.
En tous les cas, quand les 12 pots de crème de sa mère arrivent à fin, il n'y en a plus, il va falloir qu'elle-même puisse recréer cette recette. D'ailleurs, la recette de sa mère qui était restée secrète varie un peu au cours du livre. On ne sait jamais vraiment bien ce qu'elle a pu mettre dedans.
On n'a jamais su. Elle, à la fin de sa vie, son secrétaire, Patrick Huygens, se trouve un petit papier où alors il pense qu'il va trouver le secret du Graal, du trésor absolu. Pas du tout, en fait. Il y a quelques indications. Aujourd'hui, quand on connaît les produits de beauté, la façon dont ces produits de beauté sont étudiés, la texture, les matières, on peut imaginer que cette crème valase qu'elle va recréer, c'était peut-être plus ça tenait plus de l'emplâtre que d'autres choses. Mais enfin, c'était une crème quand même qui était faite pour hydrater la peau. Et c'était une crème qu'elle a recréée. Parce qu'elle a demandé à sa mère de lui envoyer les recettes, elle est allée travailler chez un pharmacien pour comprendre un petit peu les mécanismes de la fabrication des crèmes de beauté. Elle a travaillé chez un gouverneur, le gouverneur de Brisbane, et elle habitait la campagne, et donc elle a pu herboriser à loisir. Et quand elle est arrivée à Melbourne, où elle a été serveuse pour gagner sa vie, toutes ces années, c'est des années dont elle se souvient avec beaucoup d'horreur, en disant que vraiment elle a travaillé comme une folle.
Elle se forme, oui.
C'est des années de formation, et elle rencontre, en étant serveuse, quatre messieurs qui sont quatre amis et qui vont l'aider. L'un en lui dessinant les logos pour le packaging de ses produits, l'autre en distribuant des prospectus, des flyers, pour expliquer que la crème va être vendue. Le troisième lui prête son laboratoire pour qu'elle continue à faire ses expériences. Et le dernier lui explique que les ressorts du marketing, et il a une compagnie de thé, et il lui dit, voilà, sans publicité, on peut rien faire. Et tout ça, parce que le génie de cette femme, je crois, c'est donc, elle est très intelligente, elle est très brillante, mais surtout, elle, c'est une éponge, elle absorbe tout et elle restitue tout à sa manière en recréant et en adaptant tout ce qu'on lui enseigne. Elle fera ça toute sa vie pour à peu près tout, dans tous les domaines. Et donc, très vite, elle recrée cette crème, elle la vend, elle la place chez des pharmaciens, elle la place, elle fait du porte-à-porte, elle vend dans des marchés. Et puis, elle réussit à économiser un peu d'argent, puis elle emprunte de l'argent, et finalement, elle ouvre à l'étage, dans une petite rue, hein, pas chic, mais pas non plus centrale de Melbourne, trois petites pièces qui seront son salon de beauté. 1902, les rideaux, elle les taille dans ses robes de soie plissée, elle peint elle-même l'enseigne, elle peint elle-même les meubles de Rotin, et elle est très fière d'ouvrir ce premier salon de beauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'ouvre en 1902 à Melbourne, qui est l'année où les femmes australiennes obtiennent le droit de vote. Et c'est intéressant parce que c'est un bon timing et c'est pas seulement un hasard, c'est que peu ou prou et de façon volontaire ou pas volontaire, le destin de Elena Rubinstein, qui est quand même assez long puisqu'elle va vivre 93 ans, c'est de suivre aussi toute l'histoire de l'émancipation des femmes.
Alors, dans ce que vous venez de dire, on perçoit qu'elle était une entrepreneuse, bien sûr, qu'elle avait le génie des affaires, mais que scientifiquement aussi, toute sa vie, elle a été au courant de ce qui se faisait de mieux dans la pharmaceutique. Elle aurait voulu faire médecine. Elle dit qu'elle l'a fait, enfin, elle l'a pas fait, hein. Mais voilà, elle avait les qualités d'une pharmacienne, en tout cas, pour faire vraiment de la pharmaceutique. Donc, c'est mérité, finalement, tout son travail. Et une deuxième chose que vous avez dite, c'est son rapport aux hommes, qui est tout à fait intéressant et que vous racontez très bien dans le livre, parce que les hommes l'ont toujours aidée, et en même temps, elle s'en est servie. Et un petit peu comme Gabrielle Chanel, on peut faire aussi là le rapport, elle a eu un rapport difficile aux hommes, parce que à la fois, elle souhaitait être entourée d'hommes, en même temps, elle s'en est inspirée, en même temps, il y avait une relation de dépendance qui a été difficile, et je voudrais qu'on parle de l'arrivée de l'homme de sa vie, en tout cas celui qui a... Une fois qu'elle avait créé son premier institut, qui lui a permis de déployer ses ailes d'une certaine mesure, ça a été son premier mari, Édouard Titus.
Alors, à la différence de Gabrielle Chanel, d'abord, il y en a deux. La première, c'est qu'elle a eu beaucoup moins d'amants qu'elle. D'ailleurs, un jour, elle se rencontre et elle parle des hommes de leur vie. Et Chanel lui demande si elle a eu beaucoup d'amants. Et elle répond, hélas, non, avec un peu de regret.
Mais Chanel, vous le dites, est toujours restée mademoiselle, oui. Tandis qu'elle est devenue madame.
Et donc, en Australie, donc en 1906, elle est dans son salon de beauté. Et elle rencontre et arrive, débarque un bel homme qui s'appelle Édouard Titus. Il est journaliste, il est américain, d'origine juive polonaise.
Comme elle,
absolument. Il vient d'un milieu un peu plus intellectuel qu'elle. Il a émigré aux États-Unis. Il est devenu journaliste. Il a étudié le droit. Il parle 6 langues. Il est bibliophile. Il va être éditeur un peu plus tard. Il est poète. Il est écrivain. Et tout de suite le courant passe. Elle l'engage pour rédiger ses textes publicitaires. Il façonne son image. C'est lui qui la surnomme Madame. C'est lui qui lui fait tous ses textes, toutes ses réclames qu'on peut trouver pendant des années. C'est lui qui les fait. Il a les idées pour elle. Il a vraiment l'idée du marketing pour elle. Et il va être très important dans sa vie. Il lui demande de l'épouser. Elle refuse, elle a peur, elle prend peur parce que c'est pas du tout dans son objectif. Elle veut réussir, elle veut être libre. Elle a déjà réussi en Australie, donc elle s'enfuit. Elle part à Londres pour ouvrir d'autres salons de beauté. Et il la rejoint. Finalement, il lui demande de l'épouser. Et ils vont avoir deux enfants, Roy qui naît en 1909, Horace qui naît en 1912. Et en fait, c'est très étonnant parce que elle voulait pas fonder de foyer, elle voulait pas se marier, elle le fait parce qu'elle est très amoureuse de cet homme, mais c'était pas son but. Et d'ailleurs, elle va toujours beaucoup travailler, elle va pas du tout s'occuper de ses enfants, ils vont être un petit peu livrés aux nannies, aux jeunes filles, aux babysitters. Et autre chose qui est compliquée, c'est que cet homme, il la pygmalionise entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va lui apprendre beaucoup de choses, il va lui ouvrir les portes du monde de l'art, du théâtre, de la culture, et il va lui présenter ses amis peintres, ses amis sculpteurs, elle va vraiment être très au fait grâce à lui de tout ça. Il l'admire beaucoup, mais en même temps, il y a un problème, c'est que c'est un homme à femme, c'est un homme qui adore les femmes. et qu'il la trompe beaucoup. Et chaque fois qu'il la trompe, elle s'achète un bijou, qu'elle appelle les bijoux de dispute. Et à la fin de sa vie, elle avait vraiment une énorme collection de bijoux. Il y en a beaucoup, pour beaucoup d'argent. Et donc, ils vont former un couple un peu impossible. C'est ni avec toi, ni sans toi. Ils se disputent, ils se réconcilient, ils se redisputent, ils se réconcilient. Ils vont quand même réussir à vivre ensemble 30 ans. Mais elle va jamais être très heureuse avec lui. D'abord, elle est très jalouse. Et puis, elle est jamais là. C'est un courant d'air. C'est une femme courant d'air. Si elle le voit un mois par an, c'est déjà énormément. Elle pense qu'à une chose, c'est voyager. Et elle prend le bateau, le paquebot. Elle passe, comme d'autres prennent le métro, le bus ou le vélo. Elle passe sa vie dans le monde entier. Et puis, elle n'a qu'une obsession. C'est ses salons de beauté, ses crèmes de beauté, développer son affaire, développer son empire, réussir. Donc, c'est très difficile de concilier une vie de famille, une vie de couple heureuse avec cette ambition qui est un moteur pour elle.
Mais vous montrez très bien dans le livre, d'ailleurs, ces vies parallèles, c'est-à-dire d'un côté la femme d'affaires qui réussit tout d'abord, on l'a dit, en Australie, ensuite en Europe quand elle revient, parce que finalement l'Australie c'est un tremplin, c'est une étape, mais c'est pas son but. Son but c'est Londres, son but c'est Paris, son but c'est New York. Et là-dedans elle va absolument réussir. Et en parallèle sa vie de femme qui est toujours plus difficile. Et voilà, vous racontez très très bien comment est-ce que les deux finalement ne se rejoignent pas toujours.
C'est-à-dire que je crois que plus elle... C'est un peu, moi j'ai appelé un chapitre le deuil éclatant du bonheur en paraphrasant la phrase de Germaine de Staël, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Oui. C'est vrai que elle n'y arrive pas, mais je crois que c'est un leurre de penser qu'on peut arriver à tout avoir et que tout doit être parfait dans une vie. C'est un peu compliqué. Déjà, si on a une ou deux choses, c'est déjà très bien. Le reste, bon. Mais... on essaye quand même. En tout cas, elle, à l'époque, elle raconte aux journalistes qu'effectivement, elle arrive à tout concilier, qu'elle est une mère formidable, qu'elle est une femme moderne, qu'elle voyage, etc. En réalité, c'est vraiment pas sa vie privée qui pêche vraiment. Alors que plus sa vie professionnelle s'élance et plus elle s'ouvre et plus les salons à Londres, à Paris, à New York ont du succès, elle arrive aux États-Unis en 1915.
À la faveur de la guerre, en fait, elle fuit la guerre
à Paris. Elle laisse sa famille qui va la rejoindre ensuite. Elle s'installe là-bas. Elle ouvre un salon, puis deux. New York, Philadelphie, Chicago. Ensuite, les grands magasins lui demandent d'ouvrir des corners dans leur département de store. Les directeurs de grands magasins, elle dit d'accord, elle réfléchit, elle hésite beaucoup, mais elle veut bien le faire à condition d'être maîtresse de tout. C'est-à-dire qu'elle veut que le packaging ce soit elle, les vêtements des démonstratrices ce soit elle, que les démonstratrices soient formées par ses soins. D'ailleurs, elle ouvre une école d'esthéticienne. Le métier existait déjà, mais elle l'a vraiment codifié. Et puis elle fait le tour des États-Unis, elle embarque une de ses sœurs avec elle, parce que chaque fois qu'elle ouvrait un salon de beauté, elle mettait une de ses sœurs à la tête.
Elle en avait 8.
Elle en avait 7, donc effectivement, ouais, elle pouvait. Et elle prend Monka, sa sœur, avec elle, et elles font le tour des États-Unis en train ou en voiture. Et le tour des États-Unis les emmène un peu partout. Et donc le jour, elles vont voir les démonstratrices et elles expliquent comment on vend les produits Rubin Chen, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre une crème. Ça, c'est très facile, c'est à la portée de n'importe qui. Non, les produits Rubin Chen, c'est une façon de les mettre. Il y a tout un rituel, la gymnastique faciale, les mouvements, etc. Et puis le soir, elles font des conférences devant les futures clientes, souvent des fermières qui n'ont pas jamais entendu parler de crème de beauté, qui lavent leur peau avec de l'eau et du savon quand elles le font. Et elles leur expliquent que vraiment les... Et donc elles viennent toutes et c'est vraiment intéressant. Et alors on voit les journaux de l'époque racontent que Madame Rubinstein est arrivée avec une robe de chez Poiret, une robe de telle couleur, tel bijou, parce qu'elle avait vraiment des énormes bijoux. Elle s'habillait chez les grands couturiers. Et donc c'est un peu la parisienne, entre guillemets, qui arrive au fin fond des États-Unis. Mais ça marche, c'est comme ça qu'elle fait le tour des États-Unis et qu'elle établit vraiment son contrôle... dans un peu. Mais ce qu'elle refuse, c'est de dévaloriser sa marque. C'est-à-dire que les grands magasins, c'est bien. Elle choisit les emplacements. Elle veut bien vendre les petites lignes et les petites lignes dans les drugstores. Les lignes principales dans les grands magasins. Jamais le mass market, en tout cas. Et puis, elle avait une autre devise qu'elle a eue très vite en Australie quand elle a commencé à fixer le prix de ses produits. Une des personnes qui a voulu l'aider a dit voilà, ça, le prix de revient est tant, on va le vendre un peu plus cher. Et elle disait non, non, pas du tout, on va le vendre beaucoup plus cher, parce qu'il faut toujours vendre un peu plus cher, c'est la part de rêve pour les femmes. Il faut leur donner l'illusion que ce qu'elles achètent, c'est aussi du rêve, c'est quelque chose... Oui, c'est l'ancêtre de parce que je le vaux bien, c'est vraiment... c'est bien pour moi de l'acheter, donc c'était important pour elle de fixer ça, en tout cas.
Oui, donc c'est-à-dire qu'elle ne cède jamais sur le luxe, mais elle parvient à démocratiser sa marque, en tous les cas. Et ça, c'est assez visionnaire, en fait, pour l'époque.
C'est-à-dire qu'elle fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, elle vise, bien entendu, et quand elle ouvre ses salons à Melbourne, à Londres, à Paris, à New York, elle vise vraiment la clientèle aristocrate, la grande bourgeoisie. C'est celle-là qui va faire le bouche à oreille et faire que sa marque va être connue. À Paris, elle demande à Missia Certes, dont elle est devenue l'amie, de lui présenter...
Missia, qui était une actrice.
Qui n'était pas une actrice.
Une sorte de muse, en fait.
Qui était une muse, en fait.
L'époque
qui était une muse de la Belle Époque, mariée trois fois et pianiste de très grand talent, posant pour les peintres, qui avait un salon, c'était une Polonaise. Et Missia l'introduit un peu dans le monde des comtesses et duchesses aristocrates et lui envoie sa clientèle, à ses amis comme clientèle à Paris. À Londres, elle avait déjà séduit l'aristocratie. À New York, elle fera de même. Mais elle vise aussi, elle a commencé à le faire à Melbourne, la middle class, les jeunes femmes un peu indépendantes, soit celles qui sont mariées, un peu oisives et qui ont un peu d'argent à dépenser, soit celles qui travaillent. Et celles-là vont constituer vraiment, au fond, le bataillon des jeunes femmes qui vont lui acheter ses produits. Ce qu'elle ne voudra pas, en revanche, c'est le mass market, et elle va s'en défendre beaucoup.
Là, on voit bien que c'est une femme d'affaires absolument hallucinante. Elle a vraiment, elle est entre deux continents, les États-Unis où vous venez de le raconter, elle a établi un empire, et en même temps l'Europe. Bon, à un moment, elle va devoir un petit peu choisir, mais il y a un passage que je voudrais que vous racontiez absolument. C'est, vous avez intitulé ce chapitre le pot de crème contre le pot de fer. C'est incroyable. Elle va tenir tête aux frères Lehman. Racontez-nous ça, parce que c'est tout de même incroyable qu'un petit bout de femme arrive à tenir tête à des plus gros banquiers de l'époque, en fait.
Alors, les frères Lehman, les Lehman Brothers, donc ce sont trois frères au départ qui arrivent, qui successivement d'Allemagne, trois juifs allemands qui arrivent d'abord aux États-Unis, qui arrivent en Alabama, qui sont colporteurs, qui finissent par faire fortune, qui arrivent à New York, qui sont banquiers et qui commencent à racheter pas mal d'affaires. Et qui décide d'investir, de racheter l'affaire Elena Rubinstein parce qu'on leur en a parlé, que ça leur paraît sain. Et
donc on est dans les années 20, il n'y a pas encore eu la grande crise de 29.
On est en 28, donc ils lui font une proposition, ils lui offrent 7 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Elle accepte, on ne sait pas pourquoi elle accepte. Elle dit qu'elle
a accepté. Elle peut plus, peut-être, entre les États-Unis et l'Europe, c'est trop
ou... Non, je crois, enfin, je ne pense pas, mais je pense que déjà la somme était quand même assez importante. Et que elle, en plus, elle gardait ses usines, elle gardait aussi elle représentait la marque aux États-Unis, puis elle gardait ses affaires en Australie et en Europe. Non, elle raconte. Alors, il y a plusieurs versions. Elle raconte que c'est parce que elle voulait absolument retrouver son mari à Paris et qu'elle en avait ras-le-bol de faire des allers-retours puisqu'elle vivait entre les deux villes. D'autres disent qu'elle avait eu vent comme ça de la crise. Mais enfin, c'est quand même bizarre de penser qu'on peut anticiper comme ça et qu'un tel délit d'initié puisse se faire un an à l'avance. Bon, toujours est-il qu'elle vend l'affaire et qu'elle le regrette aussitôt parce que les dépositaires des grands magasins, les directeurs des grands magasins où elle a mis ses crèmes lui écrivent en disant mais c'est une catastrophe, ils comprennent
rien. Ils font
rien.
Ça pas bien, en fait.
Ils font ça pas bien. Nous, dans ces conditions, on est désolés, mais on signera plus avec vous. Ils connaissent rien. C'est des petits hommes gris. Voilà, ils connaissent rien en crèmes de beauté.
Ils savent pas y faire comme elle.
Elle voit qu'ils sont en train de dévaloriser la marque et que même s'ils l'ont introduite en bourse, ça va pas du tout. Et donc elle est absolument désespérée. Elle commence à se rapprocher des actionnaires pour savoir comment elle peut faire. Les femmes lui écrivent en disant que ça va pas du tout non plus, qu'on les trouve plus partout. Donc elle se demande comment elle va pouvoir racheter sa marque. Ça lui paraît un peu compliqué. Et puis coup de bol, pas pour le monde entier, mais pour elle. Crise de 29. Et donc les actions qu'elle avait vendues 70 dollars tombent à 20 dollars. Et donc avec l'argent des Lehman Brothers, elle rachète ses propres actions. Et elle empoche au passage 6 millions de dollars. Et ça en fait une des femmes les plus riches les États-Unis. Les Lehman Brothers sont absolument furieux. Ils disent qu'elle est financièrement illettrée. En réalité, pas du tout. Elle est juste...
C'est tout à fait l'inverse.
C'est tout à fait l'inverse. Et avec ça, elle peut s'acheter un merveilleux hôtel particulier à Paris que lui vend le mari de Missia Sert, José Maria Sert. Et qu'elle fait démolir d'ailleurs, c'est l'hôtel de Vesselin, reconstruire comme elle en a envie. C'est le 24 quai de Béthune à Paris, dans le Marais. Il y a une terrasse absolument somptueuse. Et des années plus tard, à la fin des années 50, elle aura comme locataire un illustre et futur brillant président de la République, Georges Pompidou, qui sera son locataire au 24 quai de Béthune.
Vous avez visité ces lieux ?
J'ai pas pu le faire parce qu'en fait, ils ont été rachetés pour la quatrième fois. Quand j'ai voulu y aller, l'architecte à qui j'ai appelé pour lui demander de visiter m'a dit « mon client ne voudra pas, mais voilà, il reste rien à part la terrasse ». Donc je connais l'endroit, j'ai vu des photos, et de la même façon Park Avenue, l'immeuble où elle avait habité, je suis allée à New York, j'ai essayé d'y aller, d'y entrer, mais bon, c'est pas difficile. Et puis c'est le parfum des lieux, c'est plus les lieux même, quoi.
Ouais. Alors pendant qu'elle se débat avec les Lehman Brothers, eh ben, son mari Edouard, il est resté beaucoup à Paris parce que lui, son rêve, c'est de fréquenter la bohème parisienne. Il fréquente que des écrivains. Il a ouvert une maison d'édition et en fait, ils se séparent de plus en plus. Leur couple est un déséquilibre total. Et je trouve que vous racontez assez bien dans le livre comment est-ce qu'ils ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Vous avez du mal à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est vrai que lui, on lui doit quand même d'avoir édité D.H. Lawrence, d'avoir édité un peu plus tard Anaïs Nin. Enfin, ça a été un grand éditeur ou pas ? Comment est-ce qu'on peut parler de lui ?
Ça a été un éditeur... intéressant dans la mesure où il était dans la mouvance de tous ces éditeurs américains, les Crosby, les Caresse, qui sont arrivés aux États-Unis, en France juste après la Première Guerre mondiale. C'était vraiment Paris est une fête. Il y avait tous les Américains de l'époque qui arrivaient attirés par le fait que le champagne coulait à flot. Les Parisiens voulaient s'amuser, les Français voulaient s'amuser, ils voulaient plus entendre parler des horreurs de la guerre. Et donc il y avait une espèce d'atmosphère comme ça de gaieté un peu forcée au début, puis tout à fait sympathique ensuite qui régnait. Et il était vraiment au cœur de Montparnasse. Elle avait financé l'achat de la librairie qui est devenue plus tard une maison d'édition. Et lui, vraiment, connaissait tout le monde. Il connaissait les peintres, il connaissait les écrivains. Il était ami de Hemingway, il était ami de Lawrence, de Joyce. Il était ami de Chagall, de Modigliani. Vraiment, c'était son quartier, This Quarter, Montparnasse. D'ailleurs, il a racheté une revue un peu plus tard où il a publié Les Surréalistes, où il a publié Man Ray. Et elle a beaucoup acheté sous son influence de tableaux. Elle a beaucoup collectionné. On a dit par la suite qu'elle avait la plus grande collection d'œuvres mineures d'artistes majeurs. Elle a beaucoup acheté aussi d'art primitif. Elle l'a fait à Londres dans les années 8-9 sous l'influence d'un ami d'Edouard Titus qui s'appelait Epstein et qui l'a beaucoup influencé et aidé à acheter cet art primitif. Et donc... elle recevait les amis d'Edouard, elle était très contente d'être dans parmi ces gens, cette intelligentsia. Elle l'avait déjà fait à New York en fréquentant toute la bohème de Greenwich Village que Edouard connaissait. Et elle fait la même chose à Paris. Et on la connaissait comme la très riche Madame Rubinstein, qui venait à Montparnasse de temps en temps et qui allait surtout
sans canaille à Montparnasse.
Voilà, et qui surtout allait beaucoup dans les ateliers des peintres et qui achetait beaucoup beaucoup de tableaux, non sans les marchander très âprement d'ailleurs.
Et alors cette dimension en fait de collectionneuse et proche amie des peintres et des artistes, c'est une dimension importante chez elle aussi. Et il y a un feuillet avec un carnet photo où vous montrez que souvent voilà, elle aime se faire portraiturer par les peintres. Son rêve absolu serait été que Picasso la peigne. Mais voilà, ça fait partie de la création de son image. Pourquoi est-ce qu'elle a tellement travaillé la manière dont on la photographiait, la manière dont on la représentait avec ses cheveux tirés en chignon, son visage comme ça très blanc?
Elle s'est fait une image, elle s'est fait son image, sa propre image. Et puis elle a voulu se faire peindre par les grands peintres de l'époque. Elle s'est fait peindre par Marie Laurencin, par Dufy, par Helleux, par Bérard, par David. Dali dans les années 40 à New York. Il y a effectivement que Picasso qui a pas voulu la peindre.
On peut dire que ça a été une égérie ou une muse ou non ?
Non, pas du tout. Non, c'était pas une muse. C'était juste que c'était bien pour elle, pour son image. C'était Missia Sert qui lui avait expliqué qu'il fallait se faire peindre et elle l'a fait. Et elle mettait ses tableaux dans ses salons de beauté qu'elle décorait aussi de façon somptueuse, en s'adressant à des peintres, à des sculpteurs, à des designers. Non, c'était vraiment tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle faisait, c'était vraiment pour sa marque. Que ce soit sa façon de s'habiller, elle s'est habillée chez les plus grands couturiers, que ce soit ses bijoux, que ce soit tout le décorum, tous les tableaux, c'était vraiment aussi, c'était pour elle, par plaisir, parce qu'elle a toujours recherché la beauté, mais c'était aussi pour sa marque et pour glorifier sa marque et pour se fabriquer cette image toujours.
Oui, c'est-à-dire qu'elle était la meilleure ambassadrice d'elle-même.
Absolument.
Donc voilà, dans votre livre, on traverse toutes ces époques, la belle époque, puis après les années folles à Paris. On sent quand même votre amour de la parisienne. Hein. À chaque fois, c'est Paris. Alors, c'était aussi le grand amour d'Elena Rubinstein, c'était Paris. Mais on sent aussi voilà, que c'est là où il y a
ça
le
se
style,
passe,
quoi.
Mais...
c'est là où ça se passe, non ? Je sais pas.
Oui, tout à fait. Elle disait d'ailleurs que Paris était le laboratoire de la beauté. Et c'est pas faux, c'est-à-dire que elle a adoré Paris pour sa légèreté, pour ses salons, pour les gens qu'elle a rencontrés. Elle raconte après à son secrétaire des années plus tard qu'elle a rencontré Proust, qui lui a demandé avec beaucoup d'intérêt comment se maquillaient les duchesses et qu'est-ce que c'était que le rouge à lèvres et ce qu'on mettait à l'époque sur les cils. Elle adorait ça. D'ailleurs, quand elle est arrivée, elle a tout de suite commencé à imaginer des produits de beauté avec Poiret, des lignes de maquillage, parce qu'elle trouvait que les Parisiennes se maquillaient, qui commençaient à se maquiller, se maquillaient très mal. Et ça a toujours été, Paris a toujours été un plaisir pour elle. Elle a d'abord acheté un immeuble, avenue boulevard Raspail, où elle a fait un théâtre et un cinéma pour projeter les œuvres des amis de son mari.
Puis ça n'existe plus,
Si, ça existe toujours. C'est un théâtre, boulevard Raspail, studio Raspail. Puis ensuite, son hôtel particulier, quai de Béthune. La France lui plaisait beaucoup, donc elle a aussi acheté une maison de campagne à Combs-la-Ville, à Moulins. Et puis elle a acheté ensuite, pour son deuxième mari, parce qu'elle s'est mariée une deuxième fois avec un prince russe, un prince géorgien, elle a acheté une maison à près de Grasse. Et donc, voilà, elle a toujours adoré la France et elle a toujours fait en sorte de vivre entre New York et Paris quand elle ne voyageait pas, parce qu'elle a toujours beaucoup voyagé aussi.
C'est vrai que le maquillage, c'était une époque où c'était réservé encore aux actrices, aux prostituées, et elle l'a démocratisé aussi.
Elle a créé...
Qui neige,
alors vraiment, c'est...
Elle a sa grande création, c'est le mascara en tube aussi.
Absolument. Alors, dans les années 10, quand elle arrive en Angleterre, on sort de l'ère victorienne, on se maquille pas, évidemment, c'était indécent.
Ça se faisait pas du tout,
seules les actrices et les prostituées le faisaient. Et elle est allée apprendre des actrices comment l'art du maquillage est sur scène, et elles lui ont appris ce que les produits qu'il fallait utiliser. Et elle s'amusait à maquiller certaines femmes de la haute société, comme Margot Asquith, la femme du Premier ministre, qui avait osé sortir maquillée, ce qui avait fait scandale à l'époque, mais en même temps, c'était beaucoup de ces Anglaises un peu excentriques, grandes aristocrates, qui aimaient bien un peu défrayer la chronique et effrayer le bourgeois. Et donc, elle faisait ça avec volontiers. À Paris, elle fait la même chose. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que de voir comment elle arrive à suivre toujours l'émancipation des femmes, parce que pour elle, donc, la beauté, c'était le pouvoir. Donc, il fallait le pouvoir, non pas seulement de séduire, mais aussi de s'affirmer, de prendre possession de son apparence pour être plus, pour s'affirmer, pour devenir plus indépendant, en tout cas. Et pour elle, toutes les femmes avaient le devoir d'être belles. Elle dit, il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Moi, ce que j'aime bien
cette maxime de dire, il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses, est-ce que c'est pas une sorte aussi de, à travers ce culte de la beauté, pour les femmes, c'est une culpabilisation, vous le dites à un moment, toujours courir après le fait d'être belle. Comment est-ce qu'elle, elle se positionnait?
C'est intéressant parce que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, et dans le cas de cette histoire de la beauté, de l'émancipation des femmes, on se rend bien compte que la beauté et la mode, ils jouent un vrai rôle. Parce que c'est pas seulement de dire les femmes s'émancipent parce que le droit de vote, parce que le travail, parce que l'autonomie financière, parce que la maîtrise du corps, etc. C'est aussi de dire qu'à un moment donné, elles disent, voilà, on décide d'être qui on est. Et par exemple, en 1912, aux États-Unis, un tout petit peu avant qu'elle arrive, il y a une manifestation de suffragettes dans les rues de New York. Elles sont 20 000, elles sont habillées en blanc. Et elles portent toutes du rouge à lèvres. Ce qui veut dire... Ce qui est tabou à l'époque, et ce qui veut dire, voilà, on s'affirme, on a le droit aussi de se maquiller. Et ce qui est effectivement intéressant, comme vous le soulignez, c'est que le maquillage, la beauté, l'apparence de soi, il y a toujours le balancier entre asservissement, femme-objet, et au contraire, maîtrise de soi et émancipation. Et ça dépend où on met le curseur. Par moments, on met le curseur un peu loin vers le culte femme-objet. Ça va être le backlash d'après-guerre et des années 50. Au début du siècle, c'est plutôt l'inverse. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point c'est les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la beauté, ça suit aussi la mode. Ça suit aussi la façon dont les Vionnet, les Chanel, les Poiret enlèvent le corset, dont les corps des femmes s'affinent, de l'odalisque qu'on passe à la grande liane, qui va faire du sport, qui va faire des jeux, aller à la plage, qui va faire du vélo, qui va faire de l'équitation, qui va faire de la voile. C'est comme ça qu'on crée les premiers... Elle était obsédée par l'idée qu'il fallait absolument protéger sa peau du soleil, donc elle crée des protections pour la peau, mais elle crée aussi des autobronzants, des crèmes protectrices. Donc tout ça, tout ce développement génère une industrie de la beauté, mais cette industrie de la beauté en marche génère aussi une nouvelle façon pour les femmes de vivre leur vie, de vivre leur corps et la liberté qu'elles ont de se mouvoir et de bouger. Voilà.
En tout cas, ce qu'elle disait, vous le rapportez dans le livre, c'est que la meilleure des crèmes anti-rides, ou la meilleure manière de rajeunir, c'est pas la crème anti-rides, c'est de mentir sur son âge.
Oui, il y a deux façons. Pour elle, la meilleure crème anti-rides, c'est de mentir sur son âge. Et elle, dans son autobiographie qu'elle a dictée à 93 ans, elle dit que c'est 92 ans, elle dit que c'est la meilleure façon qu'une femme a le droit, qu'elle revendique le droit pour une femme d'être ambiguë sur son âge. Et autre chose, c'est qu'elle a toujours dit que le travail, c'était la meilleure des crèmes anti-rides. C'était une bonne crème anti-ride pour le visage, mais aussi pour le corps et aussi pour l'esprit.
Une manière de pas penser à ce qui va pas.
Mais cela dit, c'était une hyperactive. Elle bossait, elle avait une capacité de travail absolument phénoménale. Elle dormait très peu. Les seuls moments où elle se reposait, c'était sur ses bateaux, quand elle faisait des voyages, sur ses bateaux de ligne magnifiques. Et là, elle pouvait dormir un peu dans les cabines.
Mais pour revenir à la question de l'âge, lorsqu'elle se remarie, donc son deuxième mariage, au bout de 30 ans avec Edouard, ça n'allait plus du tout. Lui, il prend une femme qui a plus de 45 ans de moins que lui, et elle prend un mari qui a 20 ans de moins qu'elle, 23 ans de moins qu'elle.
C'est une cougar avant l'heure.
Voilà.
Et
c'est une cougar avant l'heure.
Et voilà. Et en tout cas, Archil, son deuxième mari, c'est un bel homme. Il est prince géorgien.
Ça lui plaît.
Ça lui plaît de devenir princesse. Elle adorait qu'on l'appelle princesse. Elle dit ça me repose, c'est formidable. Donc le prince Courrieli, il joue au bridge. En fait, pour vivre, il a immigré. C'est un immigrant russe. Pour vivre, il n'est pas chauffeur de taxi, il donne des cours de bridge, enfin il sert de partenaire de bridge aux riches bridgeuses, et on lui présente une partie de bridge chez la princesse de Polignac, la fille de Jeanne Lanvin, et il la raccompagne chez elle, enfin il lui fait un brin de cour. Elle ne veut pas se remarier, elle dit à quoi ça me sert un mari à mon âge, en plus, bon, en plus elle a été vraiment amoureuse de Titus, donc... Et lui, bon, finalement, là, elle se dit que bon, pourquoi pas. Et elle est assez heureuse avec lui. Ils vivent quelques années ensemble. Il va mourir d'une crise cardiaque à 50 ans. C'est un gay compagnon. Il est gentil.
Il la respecte plus.
Il la respecte. Il est attentif. Il a un carnet d'adresses absolument fourni. Il est un peu paresseux, donc il fait pas grand-chose. Alors pour lui, elle crée une ligne de produits de beauté voilà, et qui marchera pas malheureusement, Gourrieli, mais qui est précurseur. Et quand ensuite, après-guerre, elle décide de créer, pour accompagner cette ligne de beauté, un salon de beauté pour hommes, et qu'elle lui dit, voilà, Archil, je vais créer un salon de beauté pour hommes et vous allez le tenir. Il dit, quoi? Mais un prince géorgien? Mais jamais, je vais me compromettre.
Je veux pas travailler.
Je veux pas travailler. Puis même, donner mon nom à un salon de coiffure, même pas en rêve. Et donc, en fait, elle ne le fera pas, il ne le fera pas. Elle laisse le salon péricliter, mais elle était vraiment précurseur pour ça.
Alors... Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, elle se réfugie à nouveau à New York. Et est-ce qu'on peut parler d'une dimension d'engagement de sa part pour la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait étant donné qu'elle était à la fois juive et très fortunée, est-ce qu'elle a pu aider des gens?
Alors elle donnait,
comment est-ce qu'elle s'est comportée?
Elle donnait beaucoup d'argent à des causes, mais pas seulement juives, juives bien sûr, mais aussi à la Croix-Rouge polonaise parce qu'elle était très polonaise. Elle a aidé les soldats. Elle a, à la demande de Roosevelt, elle a fait des kits pour les soldats, des kits de camouflage.
Oui, ça c'est fantastique.
Et donc avec
qui débarquaient en Afrique du Nord.
En Afrique du Nord, donc des kits pour se maquiller, pour se camoufler la peau, des sticks pour se protéger les lèvres du soleil. Donc elle a participé à l'effort de guerre d'une certaine façon. Et puis elle a essayé de faire venir des gens de sa famille, des cousins, des parents de Pologne. Ça a été difficile parce qu'il y avait des quotas d'immigration assez sévères aux États-Unis. Sa sœur Regina et son beau-frère Moïse Colline, les parents de sa nièce Mala qu'elle adorait, sont morts à Auschwitz. Après-guerre, elle a aidé beaucoup de gens à venir en France et aux États-Unis, des rescapés de la Shoah qu'elle a aidés. Moi, j'ai rencontré sa petite nièce, Litka, qui est venue à Paris à 16 ans avec sa mère. Le père et le frère avaient disparu dans la tourmente et elle les a tout de suite fait venir. Elle leur a trouvé un logement, elle les a fait travailler chez Rubinstein. Elles ont travaillé très jusqu'à la mort de l'une et l'autre.
Mais elle n'a jamais changé son nom, d'ailleurs, Rubinstein.
Non, jamais. Elle s'appelait Raja de son prénom. Elle l'a transformée en Elena, de la même façon qu'elle a biffé sur son passeport quelques 8 années de vie, puisque j'ai retrouvé, moi, des passeports, des photocopies de passeports où il est écrit qu'elle était née en 1880. Mais elle n'a pas changé son nom de Rubinstein, contrairement à pas mal d'immigrants juifs qui sont arrivés aux États-Unis et même dans la beauté comme les Revlon ou les Estée Lauder. En même temps, elle n'était pas du tout pratiquante. Elle avait vraiment tourné le dos à l'orthodoxie juive, mais elle a été en but à l'antisémitisme. Et j'aime bien. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'en 1941. Elle veut acheter un immeuble, elle veut louer un immeuble sur Park Avenue
à
New York. Elle s'est réfugiée à New York pendant la guerre. Elle trouve cet immeuble magnifique, c'est un triplex, comme un château dans les airs, dit-elle à son fils. Et l'agent immobilier l'appelle en disant: Madame Rubinstein, je suis vraiment désolée, c'est impossible, on ne peut pas vous louer l'appartement parce que les colocataires, les copropriétaires ne veulent pas d'une juive dans l'immeuble. Et elle répond: bon, eh ben, faites une offre, j'achète l'immeuble. Et elle achète l'immeuble.
Oui, 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 mais vous montrez que ça a fait partie aussi de sa vie. Finalement, malgré tout, sa vie personnelle, son deuxième mari, ses enfants qu'elle voit de loin, il semble ce qui l'intéresse le plus, c'est son empire, c'est son domaine. En tout cas, aux États-Unis, il y a une femme qui est sa rivale, qui s'appelle Elizabeth Arden, et dont l'empire cosmétique existe toujours aujourd'hui. Et vous racontez, c'est assez amusant aussi, toutes les anecdotes, comment est-ce qu'elles se tirent la bourre l'une l'autre en se dérobant leur personnel à tour de rôle.
Oui, c'est très amusant parce qu'elles sont...
débauchant les ex-maris.
Elles, toutes les deux, Elizabeth Arden comme Elena Rubinstein, elle vient d'un milieu pauvre. Son père était jardinier, sa mère était infirmière. Elle va raconter aussi, comme Elena Rubinstein, absolument n'importe quoi sur sa vie et sa légende. Et quand elle voit débarquer Elena Rubinstein, elle le voit d'un très mauvais œil parce qu'elle a commencé à s'implanter aux États-Unis. Ça marche très bien pour elle. Et elle, comme Elena Rubinstein, elles vont toutes les deux faire des fortunes et un empire de la beauté. Et du coup, mais elles se détestent. Elles sont rivales. Elles resteront rivales. Et elles passent leur vie à s'imaginer des coupons d'âbles. Et Elizabeth Arden pique un manager. Du coup, Elena Rubinstein réplique en piquant le mari d'Elizabeth Arden, qui était son manager. Et aussi, quand il divorce, il quitte l'entreprise avec une clause de non-concurrence. Et puis, 5 ans plus tard, Elena Rubinstein n'a de cesse que de l'embaucher. Alors, elles ne se sont jamais rencontrées. Elle disait « We never met », Elena Rubinstein, avec son accent anglais matiné de polonais et d'allemand et de yiddish. Et pourtant, elles fréquentaient les mêmes réceptions, elles étaient connues, elles étaient interviewées par les mêmes journalistes, elles paraissaient dans les mêmes journaux, elles copiaient les crèmes. Vraiment, elles avaient 1000 fois par jour, elles allaient dans les mêmes restaurants, 1000 fois par jour l'occasion de se rencontrer, et en fait, elles ne le faisaient pas.
Oui, donc ça s'est fait à coups de griffe, évidemment, ça n'a pas toujours été difficile. En 45, elle rentre à Paris, elle rentre en Europe. Et là, à nouveau, vous racontez que tout est à reconstruire parce que son usine de Saint-Cloud a été détruite, elle a perdu énormément de choses, on lui a volé des recettes secrètes, etc. Et cette femme, jusqu'à la fin de sa vie, elle ne va jamais, jamais, jamais s'arrêter.
Oui, mais c'est incroyable parce que quand elle retourne en Europe, effectivement, elle retourne par le premier bateau. Et tout est à refaire. À Paris, son appartement du quai de Béthune a été occupé par la Gestapo. Il n'y a plus rien. Il reste encore des choses, mais les Allemands ont beaucoup abîmé d'œuvres d'art. Ils ont tiré dans les tapisseries. Ils ont fracassé des bustes d'antiquités grecques. Ils ont laissé du mobilier dehors gelé. Dans son moulin de Comblainville, ils ont broyé systématiquement tout le mobilier. Elle a plus d'argent dans ses comptes en banque. Elle a plus rien dans son usine. Plus rien non plus dans son institut de beauté. Et ben, elle a plus de 70 ans. Elle retrousse ses manches et elle repart à l'attaque. Et en 5 ans, elle récupère son empire non seulement français mais européen. Et elle continue à être infatigable. Et plus elle vieillit. Bon, plus ses travers et ses défauts se multiplient, elle est insupportable, elle est autoritaire, elle s'ingénie à semer la zizanie dans ses équipes. Elle a vraiment beaucoup de défauts, elle est à la fois très généreuse, mais en même temps très radine. Mais elle est incroyablement vivante, incroyablement innovatrice, incroyablement toujours prête pour aller être l'ambassadrice de sa marque. Par exemple, en 59, elle part à Moscou, c'est la foire de Moscou, et elle est invitée, elle est une des seules Américaines à avoir un pavillon.
Oui, parce qu'elle a la nationalité américaine, voilà. par son premier mari.
Et ben, inlassablement, elle explique aux Russes comment soigner leur peau et comment devenir hydrater leur peau et prendre soin d'elle.
Mais elle continue à voyager.
Et pourtant, elle part. Alors, à l'époque, elle est quand même faiblarde, hein, parce qu'elle part accompagnée de son médecin et de sa nurse, mais elle le fait quand même.
Elle part au Japon,
elle part en Israël qu'elle découvre. D'ailleurs, elle monte une usine en Israël et elle donne de l'argent pour faire un musée à Tel Aviv, qui sera le pavillon Elena Rubinstein, qui est une annexe du musée de Tel Aviv. Et elle donne au musée toute sa collection de maisons de poupées. Elle en a 36 et c'est une collection absolument inouïe parce que elle a tout collectionné, y compris les opalines, y compris vraiment énormément de choses. Et les maisons de poupées, vraiment, elle avait fait refaire et acheter à l'identique des intérieurs, intérieurs flamands, intérieurs bourgeois, intérieurs paysans. Il y a 36 maisons et c'est 33 intérieurs et c'est absolument inouï.
Peut-être la part d'enfance qui lui restait.
Peut-être, oui, parce qu'elle disait que quand elle était petite, il y avait le jardinier de sa grand-mère à Cracovie qui leur fabriquait des petits meubles de poupées, et que la passion en était toujours restée.
Mais quand vient un peu le dernier moment, enfin le dernier soir pour elle, beaucoup de gens autour d'elle, beaucoup d'hommes autour d'elle, en tout cas les hommes qui ont compté dans sa vie sont morts. Son premier mari, son deuxième mari, elle a perdu un fils. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est morte seule ?
Elle était entourée quand même. Elle avait sa nièce Mala, son neveu Oscar, elle avait ses avocats, elle avait son fils Roy qui était là, sa belle-fille. Elle avait son secrétaire Patrick O'Higgins.
Oui, qui a été important à la fin de sa vie.
Non, elle avait du monde autour d'elle. Elle est morte seule à l'hôpital. Elle a fait un malaise. L'hôpital était l'annexe de sa maison puisqu'il y allait beaucoup, puisqu'elle était de santé fragile. Elle avait eu un cancer. Enfin, mais elle est morte seule à l'hôpital. Mais jusqu'au dernier jour, quand même, juste la veille de sa mort, elle avait réuni tout le monde autour d'elle. C'est ce que raconte Patrick O'Higgins. Et elle relisait un mode d'emploi en disant à Mala, mais ça va pas du tout. Personne va rien comprendre. Elle disait, vous avez vu tel film, il paraît que c'est bien. Est-ce que la petite Ed Byrne est toujours l'égérie de Givenchy? Enfin, elle s'intéressait vraiment à tout et elle est morte vraiment très vivante en s'intéressant à tout.
Et alors, quand elle est morte, Elena Rubinstein, c'est présente dans 30 pays. Il y a 32 000 employés, je crois. Il y a 14 usines. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours autant d'importance que quand elle est morte?
Non, c'est un peu différent. Les héritiers ont vendu à Colgate. Il y a eu pas mal de péripéties. L'Oréal a racheté.
Donc aujourd'hui, ça appartient à L'Oréal.
Aujourd'hui, ça appartient à L'Oréal. Et il y a beaucoup de filiales Rubinstein dans le monde, dont la Belgique, qui est très importante et qui marche très bien, mais aussi l'Italie en Europe. Mais il y a aussi dans le monde entier le Japon, la Russie, le Mexique, qui sont des pays où la marque marche extrêmement bien.
Et est-ce qu'on peut dire que quelque chose de l'esprit d'Elena Rubinstein est toujours dans cette marque, cette exigence, en même temps cette folie?
En tout cas, ce que je remarque, de ce que je connais un peu en France et maintenant ce soir en Belgique, c'est qu'il y a vraiment un amour pour... c'est particulier, les gens qui s'occupent d'Elena Rubinstein. Ça n'a rien à voir avec le reste des marques ou de L'Oréal. C'est que vraiment, il y a un vrai... Euh, y a un vrai amour pour la fondatrice et un vrai intérêt pour la fondatrice.
Un culte ?
Je ne vais pas dire un culte, non, mais c'est une femme qui intéresse vraiment, qui intéresse vraiment, qui passionne en tout cas, qui ne laisse pas indifférent.
Et là, vous terminez le livre en disant que Demi Moore, qui est aujourd'hui l'ambassadrice de la marque, aurait beaucoup plu à Elena Rubinstein. Vous maintenez ?
Je pense que Demi Moore aurait beaucoup plu à Elena Rubinstein. Je sais que Elena Rubinstein plaît beaucoup à Demi Moore, donc affaire à suivre.
Merci beaucoup, Michèle Fitoussi, pour cette présentation.
Merci à vous, Juliette.
Ce destin trépidant.